Voilà, bonjour à tous. Voilà, je vous invite ce matin à lire un texte situé en 1 Pierre 1, 22, au chapitre 2, versets 1 à 3. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Voilà, donc c'est un texte qui est très dense. Alors, j'aurais pas la prétention ce matin de pouvoir le traiter en entier d'une manière complète. En tout cas, j'ai simplement relevé trois exhortations de Pierre dans ce texte qui m'ont... Voilà. Qui m'ont plus interpellé. Alors la première, il y aura trois, sur ces trois exhortations, la première exhortation est celle d'aimer ardemment ses frères et sœurs. Donc Pierre invite les croyants à s'aimer ardemment d'un cœur pur. Cependant, Pierre relie cette exhortation comme la conséquence d'une nouvelle naissance pour le croyant. Une nouvelle naissance qui entre dans la vie du croyant lors de sa conversion. Cette nouvelle semence parfaite, bonne, vivifiante est la conséquence de l'acceptation intérieure, le fait de croire au message de l'Évangile. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que l'Évangile? Quelle est la parole vivante et permanente de Dieu? On en a déjà aussi parlé ce matin, mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est de comprendre que notre mauvaise façon de vivre, notre vie futile, nous condamnait à l'enfer éternel. À une vie centrée sur nous-mêmes, à une vie qui nous condamnait par nos propres actions et péchés. Donc la bonne nouvelle, c'est que là où l'homme ne pouvait pas se rattraper, Dieu, dans son grand amour, a condamné Jésus à la mort sur la croix, tel un agneau, en sacrifice à notre place et en notre faveur. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile, le fait que Dieu, dans son grand amour, a sacrifié son Fils bien-aimé qui était innocent, pour permettre aux hommes et aux femmes perdues, à nous-mêmes, à chacun d'entre nous, qui vivaient d'une manière futile et mauvaise, de pouvoir être sauvés en reconnaissant que Jésus-Christ est notre Sauveur et que nous avons besoin de son pardon. C'est la vérité dont parle Pierre, c'est l'Évangile. Obéir à la vérité, c'est reconnaître le Christ, se repentir de ses fautes et placer sa foi et son espérance en Dieu. En reconnaissant Dieu, il nous fait renaître, naître de nouveau d'une nouvelle semence, une semence vivante, éternelle, qui est la parole éternelle de Dieu, qui est en fait la parole qui nous a été annoncée, qui est tout simplement Jésus-Christ. Jésus-Christ qui vient habiter en nous par son Esprit, qui nous est envoyé lors de notre conversion. Alors c'est vrai que c'est des choses qu'on a parfois tendance à entendre, à réentendre, mais comme ce matin, mais c'est tellement bon de pouvoir toujours revenir à la croix, se souvenir de Jésus-Christ et de souvenir de sa grâce pour nos péchés. Et je m'en lasse pas. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez donné votre vie au Seigneur? Comment se sont passés les jours, les semaines qui ont suivi? Donc pour ma part, en tout cas, je voyais que je n'aimais pas comme Dieu voulait que j'aime. Je souffrais car je voulais donner plus d'amour autour de moi, notamment dans ma famille. Mais il y avait beaucoup de querelles. Je m'en rendais compte, mais par mes propres forces, il n'y avait aucun changement, ou très peu. Mon fardeau s'accentuait, avec toujours plus d'angoisse, avec toujours un fardeau plus lourd à porter. Jusqu'au jour où j'ai remis à Dieu mon cœur, en lui demandant de le transformer et de me remplir d'amour pour mes proches et pour mon prochain. C'est là que j'ai été submergé de l'amour de Dieu. J'étais heureux, j'étais libéré de beaucoup de mes blocages intérieurs qui m'empêchaient d'aimer. Le Saint-Esprit est venu en moi pour purifier mon cœur. Mon amour intérieur débordait et je pouvais le transmettre. Les jours qui ont suivi, je ne me suis pas reconnu. Les jours et les semaines. Après, bien sûr, il y a des combats qui sont revenus, mais la différence à ce moment-là était assez incroyable pour moi. Nous sommes des canaux de l'Évangile. L'amour et la grâce reçus du Christ, notre responsabilité est de le transmettre. Revenons-en à l'exhortation de Pierre. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Concrètement, c'est assez facile à comprendre d'aimer, mais comment le matérialiser dans l'Église, mais aussi dans la société avec nos prochains? Jésus nous a laissé par une parabole qui est pour certains très connue, la parabole du Samaritain, un excellent exemple de ce que doit être l'amour de Dieu pour notre prochain. Lisons Luc 10, versets 30 à 35. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui ? Répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière toi aussi. Premièrement, je vais juste relever 3 points de cette histoire. Premièrement, alors que les 3 personnes voient cette personne qui est en difficulté, le Samaritain fut ému de compassion. Fut ému de compassion pour les souffrances et les douleurs de cet homme qu'il ne connaissait pas. Dans l'Église, avec notre frère ou dans la société en manière de générale, avec notre prochain, est-ce que cela nous arrive encore d'être ému? Qu'est-ce qui nous émeut encore? À la télévision, sur Internet, dans les livres, dans nos discussions autour de nous, il y a tellement de choses qui vont mal et qui sont de plus en plus graves. Avec les médias, nous nous sommes habitués à entendre une certaine violence, à voir de la souffrance. Lorsque j'étais conducteur de bus à Mulhouse, est rentrée dans le bus une dame qui avait beaucoup bu, un petit peu trop. Et à un moment, 15 minutes après, elle est tombée à plat ventre à l'entrée du bus. J'ai donc appelé les pompiers, je devais m'arrêter à l'arrêt suivant. Et lorsque j'ai expliqué aux gens que le bus n'irait pas plus loin et que ce n'est pas la peine qu'ils rentrent dans le bus, donc il y avait cette dame donc, qui était couchée dans le hall d'entrée. Et les gens n'ont pas voulu rester dehors, ils ont quand même enjambé la dame et sont allés s'asseoir dans le bus. Et donc la dame était assise à côté de moi, elle est tombée du siège qui était juste derrière moi, donc une dame s'est assise à sa place. Et à un moment, elle me dit « Mais au fait, pourquoi on est arrêté ?» Je lui dis « Mais écoutez, vous ne voyez pas ?» Elle dit « Non, il se passe quoi ? Mais ça, c'est pas grave, on peut continuer. » Voilà, c'était une petite anecdote qui m'a choqué et en même temps où je peux aussi parfois me voir, tout simplement. Où est des fois notre compassion, ma compassion face aux souffrances de personnes que l'on connaît ou dans l'Église? Est-ce que je suis toujours plus blasé, plus insensé, ou alors toujours plus ému, toujours plus rempli de compassion, comme nous l'a montré Jésus à de multiples reprises? Deuxième point, le Samaritain prend le temps tout de suite. On sait qu'il allait à Jérusalem, de Jérusalem à Jéricho, ce qui fait environ 37 km à pied. Bon, on ne sait pas trop où il en était dans sa marche, mais il s'arrête directement, il prend le temps, de le soigner avec son huile et du vin. Peut-être que il aurait voulu être tranquille le soir, peut-être qu'il aurait voulu se reposer, mais il a répondu de suite aux besoins qui s'est présenté. Pour nous, avec notre vie de plus en plus speed, entre guillemets, le travail, la famille, les amis, les loisirs, les activités de l'Église, notre santé, tous nos investissements, la retraite, le temps que l'on prend ou que l'on perd sur Internet, sur les écrans. Est-ce que l'on arrive encore à débloquer du temps ou chambouler nos plans quand nous voyons un frère ou une sœur, dans l'Église notamment, qui a besoin d'affection, de discuter, d'un chauffeur, d'une aide de temps quelconque? Troisièmement, le Samaritain s'engage matériellement. Il a compris que le blessé n'est pas en mesure de payer ses soins, car on lui a tout volé. Alors, il lui paye sa nuit sans demander de remboursement et il s'engage en demandant à l'aubergiste de prendre soin de cet homme. Son seul intérêt est que cet homme aille bien. Il donne tout naturellement, de son argent et donc de son huile aussi et de son vin pour soigner ses plaies. Il a utilisé tous ses moyens. Cela fait référence aux paroles de Jacques que nous avons étudiées cette année, où au chapitre 2, verset 15, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? À rien. » En résumé de cette première partie, aimer ardemment son prochain, c'est une réponse à l'Évangile que nous avons reçu et accepté. Pierre utilise l'impératif « aimer ardemment », ce qui montre que nous avons une responsabilité personnelle de rechercher à ce que soit partagée concrètement l'œuvre que Jésus fait dans nos vies. La deuxième exhortation, le deuxième point du développement, est au chapitre 2, verset 1, « Rejetez donc toute malfaisance et toute ruse, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. » Donc, dans le premier point, nous avons vu que Dieu attend que l'Évangile, l'amour, la grâce que nous avons reçue, nous le transmettions nous-mêmes de façon ardente. Cependant, amour ardent et méchanceté sont incompatibles à une vie chrétienne au sein d'une Église où la règle est l'amour, mais aussi à l'extérieur. Nous devons avoir un témoignage d'amour. Notre nouvelle naissance ne nous introduit pas dans une vie où les luttes n'existent pas, où les luttes n'existent plus, mais Paul parle du fait de lutter contre les œuvres de la chair dans le but de nous dépouiller de tout ce qui appartient à notre ancienne vie. Donc ces mauvais fonctionnements sont en opposition directe à l'amour fraternel ardent que nous devons vivre. Voyons quels sont les péchés que cite Pierre. Alors l'hypocrisie, donc c'est tout ce qui est contraire à la vérité, qui n'est parfois pas toujours visible par notre frère, ou pas tout de suite, mais Dieu voit dans les cœurs. C'est une attitude extérieure voilant une attitude intérieure. L'envie ou la jalousie, cela peut être un esprit de comparaison. Je suis meilleur que lui, je ferai mieux les choses que lui, j'aimerais sa place. Cela peut aussi amener à se réjouir du malheur des autres. La médisance, nous en avons parlé cette semaine dans les groupes de maison. Ce sont des paroles rabaissantes, souvent derrière le dos des gens. Cela entraîne parfois des rumeurs, des déformations de vérité. La ruse, c'est tromper une personne pour arriver à ses fins. Exemple, flatter une personne alors qu'on attend quelque chose d'elle. La manipulation pourrait aussi entrer dans cette catégorie, ou l'inverse. Ce n'est pas dans le texte, mais bon, je rajouterai quelques phrases de moquerie qui finissent par « non, ce n'est pas méchant » ou « je plaisantais »,« je rigole », un peu d'humour. Donc parfois, sans se rendre compte, il y en a qui sourient, parfois sans se rendre compte, nous pouvons blesser par nos paroles. Parfois, nos mimiques, nos silences parlent pour nous également. Les méchancetés peuvent être subtiles, parfois tellement subtiles que l'on n'y fait plus attention, que l'on ne considère plus cela comme un péché, comme une lutte. J'ai entendu une fois que les négligences... Dans la croissance d'une personne, d'un enfant, que les négligences, les paroles négatives avaient beaucoup plus d'impact sur le long terme qu'une agression physique. Jacques nous a rappelé aussi, on l'a vu cette année, que de la même bouche peuvent sortir bénédiction et malédiction. Et mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Donc si... Vous vous êtes senti visé par la médisance, moquerie ou quelque autre péché qui sort de votre bouche. En tout cas, moi, même en préparant le message, hier soir, j'ai clairement, du coup, j'ai dit quelque chose. Je me suis dit, mince, c'est voilà, ça va. Je me suis bien senti visé. Et en tout cas, Jacques nous rappelle, en chapitre 3, verset 2, que chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet pas de fautes dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Donc c'est encourageant. Cela veut dire qu'il est possible de parvenir à l'état d'adulte, qu'il y a un processus, et nous verrons dans cette troisième et dernière partie du développement quelle est la recommandation de Pierre pour nous faire parvenir à l'état d'adulte et rentrer dans ce processus. La troisième exhortation s'intitule « grandir ». Donc le verbe « croître » est intéressant. Mathieu, tu peux laisser afficher le texte si tu veux. Le verbe « croître » est intéressant. Donc il signifie déjà que l'homme nouveau ne se contente pas de vivre dans l'attente passive du salut. Pierre fait allusion au nouveau-né. Donc j'ai pas d'expérience en la matière. Enfin, sauf que je suis passé par là. Mais au tout début, le nouveau-né est dans une situation de dépendance absolue vis-à-vis de son entourage. Donc la mère y répond en essayant de s'identifier à l'enfant, en essayant de comprendre et de répondre à ses besoins. Il se crée alors un lien qui est appelé l'attachement. Donc lorsqu'on donne le biberon ou la tétée, c'est une étape importante et primordiale. La maman satisfait le besoin vital de se nourrir, le besoin vital de l'enfant de se nourrir, et vient calmer aussi la sensation de faim. Concernant le lait maternel, d'après ce que j'ai lu, il contient tous les aliments dont l'enfant a besoin pour être en bonne santé. Ce qui est incroyable, c'est qu'au fil des semaines et des mois, alors que les besoins du nouveau-né évoluent, eh bien la quantité de lait produit par la mère évolue avec, la richesse des ingrédients évolue, donc le sucre, les protéines, les vitamines, et ainsi que la texture, donc plus ou moins crémeuse. Mais ce moment, c'est aussi une rencontre, ce n'est pas que de l'alimentation, c'est aussi une rencontre entre le bébé et sa maman. Donc le plaisir et le besoin d'être au contact physique, d'être caressé, d'être tenu, d'entendre sa voix, sa respiration, son souffle, de sentir ses odeurs, de voir sa maman clairement, puisqu'à la naissance, le bébé a apparemment une vue claire d'environ 20 cm, donc qui va évoluer. Donc ce lien d'attachement sécurisant, bienveillant, sain est important, voire essentiel. Et selon certains spécialistes, il aurait un impact sur l'état de santé physique et psychologique de la personne à l'état adulte. Pour nous croyants, le lait pur de la parole, c'est une relation directe avec Jésus. C'est un enseignement clair et précis. C'est le fait de vivre l'évangile dans nos vies. Tous les ingrédients dont l'homme a besoin se trouve en Dieu. Le besoin du pardon reçu en Jésus-Christ, le besoin d'amour reçu en Jésus-Christ, le besoin d'identité reçu en Jésus-Christ, le besoin de relation reçu en Jésus-Christ, le besoin de sécurité reçu par la vie éternelle en Jésus-Christ, le besoin de consolation, le besoin de joie. La liste pourrait continuer pendant des heures. Si Pierre parle de lait pur, c'est qu'il y a certainement du lait dilué. Le lait dilué désigne peut-être une mauvaise source d'alimentation personnelle, ou que se passerait-il si l'on donnait du coca à boire à un bébé au lieu du lait qui est adapté? Il grandirait certainement, mais avec de terribles conséquences sur sa santé. Quelle est la source principale à laquelle nous buvons? Est-ce que c'est principalement est-ce que notre source principale, c'est nos pasteurs qui sont très doués, très bons enseignants, très agréables à écouter? C'est une grâce d'avoir des enseignants et des personnes de cette qualité. Et j'encourage chacun à fréquenter les réunions et être béni par nos responsables, comme on l'a déjà. Notre source principale, est-elle la lecture de livres biographiques avec des auteurs bénis par Dieu et tellement inspirants comme Hudson Taylor, George Muller, entre autres, que j'admire énormément. Nous avons une très belle et riche bibliothèque, d'ailleurs, et que je vous invite aussi tous à fréquenter, donc beaucoup y sont déjà au bénéfice. Notre source principale est-elle composée d'articles sur Internet, lus sur les sites chrétiens? J'aimerais passer plus de temps à me nourrir de certains articles sur ces sites. Ou peut-être que notre source principale est un mélange de tout cela, submergé en plus d'heures passées sur les différents écrans, Internet, discussions, les journaux télévisés, le déroulement du championnat de basketball américain. Donc ça, c'est une dédicace personnelle. Quelle est notre source d'influence principale ? La Bible fait certainement partie de ce que Dieu a voulu comme une nourriture pure. Il a dit de la Bible qu'elle est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire et apprendre à mener une vie conforme à la vérité de Dieu, à la volonté de Dieu, pardon, en 2 Timothée 3,16. Quelle est la fréquence ? Quelle est la qualité ? Quelle est la motivation ? Quelle est l'écoute ? Quels sont les efforts que je mets en place pour que Dieu me transmette les ingrédients nécessaires à ma vie chrétienne, à ma vie tout court ? Est-ce que dans mes temps de lecture, j'ai le temps de méditer, d'écouter Dieu ? Autre point, Jésus a appris à ses disciples à prier, à s'adresser également directement à Dieu. Jésus lui-même prenait régulièrement du temps seul à seul, de longs temps pour parler directement à son Père. Quel miracle d'être réconcilié avec ce Dieu Tout-Puissant, ce Dieu Saint, ce Dieu Créateur, et ce Dieu qui s'intéresse à nous sur chaque détail de notre vie et qui nous offre une relation personnelle. Quelle est la qualité de ma vie de prière ? La piété personnelle, autant que la piété communautaire, est l'une des vertus fondamentales du croyant. Elle est bien plus que la lecture et la prière. Cet été, peut-être les vacances scolaires, certains seront en vacances scolaires, d'autres en vacances professionnelles, ceux qui sont à la retraite, ceux qui auront peut-être un peu plus de temps avec le ralentissement des réunions d'église. C'est un formidable moment pour évaluer aussi notre désir, notre volonté, notre plaisir, notre consécration à la piété personnelle. Puis, éventuellement, de changer, de modifier, d'adapter nos habitudes de vie en se recentrant sur l'essentiel, sur notre relation avec Dieu. Quelques idées. Se prévoir un brunch, lecture biblique, prière. Préparer une journée de jeûne. Se fixer un objectif de lecture biblique, d'un livre, par exemple, du Nouveau Testament. Non comme une idée légaliste où, voilà, il faut respecter ça, lire tant et tant de pages, tant et tant d'heures, une heure par jour, le matin. Mais plutôt comme un moyen de motivation, un fil rouge qui va nous aider à progresser. Nous arrivons à la conclusion du message. Les trois exhortations de Paul pour le chrétien sont de s'aimer ardemment, de rejeter toute méchanceté et de désirer le lait pur de la parole en vue de croître. On a vu que Dieu nous donne une part de responsabilité en nous demandant d'aimer ardemment, de rejeter et de désirer. Nous avons des efforts à réaliser, des combats à gagner. Nous devons être persévérants dans l'amour, dans la lutte contre le péché, en s'accrochant à la piété qui nous fera aussi grandir. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a offert son esprit qui nous aide dans nos combats, qui nous aide à comprendre la parole de Dieu, qui nous aide à discerner la voix de Dieu, qui nous montre nos péchés, même les plus subtils, qui pousse pour que nous grandissions à l'image de Christ. Que nos regards restent fixés sur la grâce de Jésus à la croix. Car c'est par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés, que nous avons été transformés, que nous avons été pardonnés. C'est la grâce qui nous aide à marcher quotidiennement et qui nous transforme à l'image de Christ. Et par la grâce, nous savons aussi que Dieu nous emmène jusqu'au salut dans la vie éternelle. Nous y avons goûté, nous avons vu que c'était bon, et continuons d'y goûter sans modération chaque jour. Merci pour votre écoute.